Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question d'épiloguer sur la littérature. Ici, on va lire des livres, tourner des pages, bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Attention, au départ, notre émission du jour est prête à décoller. Direction New York, et pas n'importe quel New York, celui de 1950. Je vous parle de la capitale mondiale des arts, des affaires, de la fête aussi. Une ville que je vous propose de découvrir dans les mots d'un des plus brillants chroniqueurs de l'époque, Truman Capote, et son petit déjeuner chez Tiffany. Homosexuel revendiqué, Truman Capote est une figure de la jet-set new-yorkaise des années 50. Lui qui vient du sud du pays, de l'Amérique rurale, porte un regard mordant sur cette société pittoresque, peuplée de riches hommes d'affaires, de starlettes du cinéma, de truands et d'artistes en tout genre. Un petit monde qu'il a immortalisé, notamment dans ce court roman de 120 pages. Dans celui-ci, le narrateur se remémore ses années de jeune écrivain et les souvenirs de son ancienne voisine, Miss Holly Golightly. Holly rêve de mariage fortuné, mais aussi de trouver un sens à sa vie, question qui l'angoisse profondément. Une frayeur qu'elle tente d'oublier en contemplant les vitrines de la bijouterie Tiffany à l'heure du petit déjeuner. Ce roman fut adapté au cinéma par Blake Edwards en 1961, soit à peine 4 ans après sa sortie en librairie. Le rôle de la fantasque Holly Golightly est considéré comme l'un des plus mémorables d'Audrey Hepburn. Notre lecture du jour, je commence page 22, le narrateur y rencontre sa voisine, Holly Golightly. Bonne écoute à tous. Nos relations ne prirent vraiment leur départ qu'en septembre. Un soir que parcouraient les premiers frissons froids de l'automne, j'avais été au cinéma. J'étais rentré et je m'étais mis au lit avec un grog au rhum et le dernier simenon. C'était tellement mon idée d'une soirée confortable que je ne parvenais pas à comprendre le sentiment de malaise qui s'amplifia en moi au point que je pouvais entendre les battements de mon cœur. C'était une angoisse dont j'avais lu la description dans les livres, mais que je n'avais jamais expérimentée. Le sentiment que l'on m'épiait, que quelqu'un était dans la chambre. Puis, il y eut une succession de coups secs sur la vitre, une apparition d'un gris spectral. J'en reversai le grog, il me fallut un certain temps avant que je me décide à ouvrir la fenêtre et à demander à Miss Golightly ce qu'elle voulait. « J'ai laissé en bas un type absolument terrifiant, » me dit-elle, passant de l'échelle de secours dans ma chambre. « Je veux dire qu'il est charmant quand il n'est pas saoul, mais qu'il se met à écluser et vous parler d'un sauvage. S'il y a une chose que je déteste, ce sont les types qui mordent. » Elle écarta son peignoir de flanelle grise de son épaule pour me montrer ce qui arrive quand un type vous mord. Elle ne portait rien d'autre que ce vêtement. « Je suis navré de vous avoir fait peur, mais quand cette brute a commencé à m'ennuyer, je suis tout simplement passé par la fenêtre. Il doit croire que je suis dans la salle de bain actuellement, non pas que je me soucie de ce qu'il pense, que le diable l'emporte, il va seulement se fatiguer et s'endormir. Bon sang, il le devrait. 8 martinis avant le dîner, et ensuite assez de vin pour laver un éléphant. Ceci dit, vous pouvez me flanquer dehors si vous en avez envie. Ça ne me vexe pas du tout, vous êtes comme chez vous. mais il faisait un froid de canard sur cette échelle, et vous aviez l'air si douillet, comme mon frère Fred. Nous conchions à quatre dans le même lit, mais c'était le seul qui me laissait me pelotonner contre lui quand il faisait froid. À ce propos, est-ce que ça vous ennuierait si je vous appelais Fred ? Elle était à ce moment complètement entrée dans la chambre et s'y tenait, debout, me fixant. Je ne l'avais jamais vue jusque-là sans ses lunettes noires, et je comprenais maintenant qu'elle les portait par ordonnance, car sans elle, ses yeux avaient la loucherie de concentration des bijoutiers. C'étaient des grands yeux, un peu bleus, un peu verts, piquetés de brun, diaprés comme ses cheveux en répandant une vivante et chaude lumière. Je suppose que vous croyez que j'ai un fameux toupet, ou que je suis folle tordue, ou Dieu sait quoi. Absolument pas. Elle parut déçue. Si, si, vous le croyez, tout le monde le croit. Moi, je m'en fiche, c'est commode. Elle s'installa dans un des branlants fauteuils de velours rouge, replia sa jambe sous elle et, plissant ses yeux d'une manière plus accentuée, promena son regard autour de la chambre. Comment pouvez-vous endurer cela ? C'est le musée des horreurs ici. On s'habitue à tout, répliquai-je, mécontent de moi-même, car, pour tout dire, j'étais assez fier de mon installation. Pas moi, je ne m'habitue à rien. Ceux qui s'habituent pourraient aussi bien mourir. Son méprisant regard parcourut de nouveau la pièce.
Hello, Dolly. This is Louis Dolly. Funny glad to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You keep blowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying and the band swaying. One of our old favorite tunes from way back when. So take a rap, fellas, and an empty lap, fellas. Darling, never go my way
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B, 94 MHz. Vous venez d'écouter Hello Dolly du flamboyant Louis Armstrong. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de Petit Déjeuner chez Tiffany de Truman Capote. Qu'est-ce que vous faites là toute la journée ? Je désignais une table surchargée de papiers et de livres. J'écris des choses. Je croyais que les écrivains étaient tout à fait vieux. Pas Saroyan, bien sûr. Je l'ai rencontré à une réception et vraiment, il n'est pas vieux du tout. Du moins, réfléchit-elle, s'il voulait se raser de près. À propos, est-ce qu'Hemingway est vieux ? Dans les 40 ans, j'imagine. Ce n'est pas trop mal. Un homme ne m'intéresse qu'à partir de 42 ans. Il y a une idiote de fille qui passe son temps à me répéter que je devrais consulter un presse-ménage. Elle dit que c'est un complexe paternel. Et moi, je dis merde. C'est tout simplement que je me suis entraîné à n'aimer que les hommes plus âgés. Et c'est bien ce que j'ai fait de mieux. Somerset Maugham, quel âge a-t-il ? Je n'en sais trop rien dans les 60 et quelques. Pas mal non plus. Je n'ai jamais couché avec un écrivain. Non. Attendez, connaissez-vous Benny Shalkett ? Elle fronça les sourcils lorsque je secouais négativement la tête. C'est drôle, il a écrit des tas de choses pour la radio. Mais vous parlez d'un rat ! Dites-moi, êtes-vous vraiment un écrivain ? Ça dépend ce que vous entendez par « vraiment ». Enfin, chérie, est-ce que quelqu'un achète ce que vous écrivez ? Pas encore. Bon. « Eh bien, je vais vous aider, » dit-elle. « Et je le peux, pensez à tous les gens que je connais qui connaissent des gens. Je vais vous aider parce que vous ressemblez à mon frère Fred. Mais en plus petit, je ne l'ai jamais vu depuis que j'avais 14 ans, c'est-à-dire quand j'ai quitté la maison et il avait déjà 1m70. Mes autres frères étaient plutôt de votre taille, des avortons. C'est le beurre de cacahuète qui a tellement fait grandir Fred. » Tout le monde pensait qu'il était cinglé de se bourrer comme ça de beurre de cacahuète. Mais il n'aimait rien tant sur terre que les chevaux et le beurre de cacahuète. Et il n'était pas cinglé du tout. Il était seulement gentil et vague et terriblement lent. Il renouvelait sa 8e depuis 3 ans quand je me suis sauvé. Pauvre Fred. Je me demande si dans l'armée ils sont généreux en beurre de cacahuète. Ce qui me fait penser que je meurs de faim. Je lui désignais un compotier de pommes en même temps que je lui demandais pourquoi, si jeune, elle avait quitté la maison paternelle. Elle me regarda d'un air neutre et se frotta le nez comme s'il chatouillait, geste qu'à le voir souvent répété, je finis par interpréter comme une indication qu'on allait trop loin. Ainsi que beaucoup de personnes capables de vous faire hardiment des confidences intimes, tout ce qui ressemblait à une question directe ou à une mise en demeure, la mettait sur ses gardes. Elle mordit dans une pomme et demanda « Racontez-moi quelque chose que vous avez écrit. » Le côté sujet. Le malheur, c'est que ce n'est pas le genre d'histoire qu'on peut raconter. C'est cochon. Peut-être que je vous laisserai en lire un de ces jours. Le whisky et les pommes, ça va bien ensemble. Préparez-moi un drink, chérie. Et puis, vous pourrez me lire votre histoire vous-même. Très peu d'écrivains, surtout ceux qui ne sont pas publiés, peuvent résister à une demande de lecture à haute voix. Je ne vous préparerai un verre pour chacun. Je nous préparai un verre pour chacun et, m'installant dans un fauteuil en face d'elle, je commençai à lui faire ma lecture d'une voix qui tremblait un peu, à la fois de trac théâtral et d'enthousiasme. C'était une histoire toute récente. Je l'avais terminée le jour précédent et l'inévitable impression de ratage n'avait pas encore eu le temps de se développer. C'était l'histoire de deux femmes, de professeurs. Et l'une d'elles, quand l'autre décide de se marier, propage par des lettres anonymes un scandale qui fait échouer le mariage. Pendant que je lisais, chaque coup d'œil en direction d'Oli me chavirait le cœur. Elle s'agitait, elle triait les bouts de cigarette dans un cendrier, elle contemplait songeusement ses ongles comme si elle aspirait à une lime. Piquetou, à un moment où je crus avoir capté son attention, une absence révélatrice passa dans son regard, comme si elle se demandait si oui ou non elle achèterait une paire de souliers aperçus dans une vitrine.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous avez raison. Vous venez d'écouter « I've got you under my skin » de Frank Sinatra. C'est parti pour la troisième et dernière lecture, toujours suspendue aux dernières paroles d'Oli Golightly. C'est ça la fin ? Me demanda-t-elle ranimée. Elle se battit les flancs pour trouver une autre remarque. En ce qui me concerne, j'aime assez les lesbiennes. Elles ne me font pas peur, mais les histoires de lesbiennes me sortent par les oreilles. Je n'arrive pas à me mettre dans leurs souliers. Mais dites-moi la vérité, chérie. Chérie, ajouta-t-elle en me voyant complètement effarée, si ça n'est pas une histoire de vieille lesbienne, qu'est-ce que c'est au juste ? Je ne me sentais pas d'humeur à amalgamer l'erreur d'avoir entrepris ma lecture avec l'embarras additionnel de l'expliquer. La même vanité qui m'avait incité à une telle exhibition m'obligeait maintenant à la ravaler au niveau d'un épisode futile et sans portée. Et incidemment, fille au lit, connaîtriez-vous par hasard une gentille lesbienne ? Je cherche une colocataire. Non, ne riez pas, je suis désordonné et je ne peux absolument pas me payer une domestique. Et puis, les lesbiennes sont vraiment épatantes dans une maison. Elles adorent faire tout le travail. Vous n'avez jamais à vous occuper des balais, du dégivrage, ni d'envoyer le linge à la blanchisseuse. J'avais comme ça une camarade à Hollywood. Elle tournait dans les westerns. On l'appelait la garde forestière solitaire. Mais je dois dire une chose en sa faveur. Elle valait mieux qu'un homme dans une maison. Bien entendu que je ne pouvais pas empêcher les gens de penser que j'étais un brin lesbienne moi-même, bien sûr que je le suis, on l'est tout un petit peu. Et puis après, ça n'a jamais découragé un homme. En fait, je crois que ça les attirerait plutôt. Voyez mon forestier solitaire. Elle s'est mariée 2 fois. D'habitude, les lesbiennes ne se marient qu'une fois, juste pour le nom. Ça donne un tel cachet plus tard de s'appeler Mrs. Une telle. Non. Ce n'est pas possible. Elle fixait le réveil posé sur la table. Il ne peut pas être 4h30. Les fenêtres bleuissaient. Une brise d'aurore querellait les vitraux. Quel jour sommes-nous ? Jeudi. Jeudi ? Elle se leva. Mon Dieu, fit-elle, puis se rassit avec un gémissement. C'est trop affreux. J'étais trop fatigué pour me montrer curieux. Je m'étendis sur mon lit et fermai les yeux. Pourtant, je ne pus résister. Qu'est-ce qu'il y a d'affreux dans un jeudi ? Rien, sauf que je ne peux jamais me rappeler quand il rapplique. C'est que, figurez-vous, le jeudi, il faut que j'attrape le 8h45. Ils sont tellement exigeants pour les heures de visite, de sorte que si vous êtes là pour 10 heures, ça vous donne 1 heure avant que ces pauvres malheureux déjeunent. Vous imaginez ça ? Déjeuner à 11h. Vous pouvez aussi y aller à 2h, et j'aimerais mieux ça, mais il préfère que je vienne le matin. Il me dit que ça le remonte pour toute la journée. « Il va falloir que je reste éveillée, » fit-elle en se pinçant les joues, « jusqu'à ce qu'elle rosisse. Je n'ai plus le temps de dormir, j'aurai l'air d'une tuberculeuse, je m'en irai en morceaux comme une HBM, et ça ne serait pas chic. Une fille ne peut pas se montrer en sing-sing avec une figure verte. » La colère qu'elle m'avait inspirée au moment de ma lecture se résorbait. Holly recommençait à me fasciner. Tous les visiteurs font un effort pour se mettre sur leur 31 et c'est gentil, c'est touchant comme l'enfer de voir la manière dont les femmes portent ce qu'elles ont de plus joli. Aussi bien les vieilles que celles qui sont vraiment pauvres, elles font tout ce qu'elles peuvent pour être bien mises, pour sentir bon, et je les aime à cause de ça. J'aime les gosses aussi, surtout ceux de couleur. Je veux dire les gosses que les femmes mènent. Ça devrait être triste de voir des gosses là-bas. Mais non, ils ont des rubans dans les cheveux et du cirage sur leurs chaussures. Vous pourriez croire qu'on les amène manger des glaces. D'ailleurs, quelquefois, la salle des visiteurs, on dirait une fête. En tout cas, ça ne se passe pas comme dans les films, tout en lugubre murmure à travers une grille. Il n'y a pas la moindre grille, d'ailleurs, seulement un comptoir entre vous et eux, et les gosses peuvent monter dessus pour être embrassés. Tout ce que vous avez à faire, si vous voulez embrasser quelqu'un, c'est de vous coucher en travers. Ce que j'aime le mieux, c'est de les voir si heureux de se retrouver. Ils ont emmagasiné tant de choses à se dire, et ce n'est pas possible de rester morose quand ils n'arrêtent pas de rire et de se serrer les mains. Après, c'est différent, ajoute-t-elle. Je les vois dans le train, ils sont assis tellement silencieux, regardant la rivière qui passe. Elle tira une mèche de cheveux jusqu'au coin de sa bouche et la mordilla pensivement. « Je vous tiens éveillé. Allons, dormez. » La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote est édité par la maison d'édition Folio. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter, comme d'habitude, en podcast. On se retrouve autrement la semaine prochaine. Comme d'habitude, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.